Paulhache de Jérôme Vuittenet, chapitre 17. Mercredi 2 février 2005, conférence de presse à l'hôtel de région. Philippe Demestre, le directeur de la communication de Automobile Composant, affichait un sourire de circonstance, mais sa vie était devenue un véritable enfer. Depuis le départ de sa femme, en septembre, il avait emménagé dans une garçonnière en centre-ville et avait retrouvé la liberté grisante du célibataire endurci. Plus besoin de se cacher pour entretenir ses liaisons extra-conjugales. Plus de corvée familiale qui l'empêchait de profiter d'un week-end semi-professionnel offert par un fournisseur dans une station de ski huppée. Plus besoin de rouler en monospace de papy. Sur le papier, tout aurait dû être plus facile depuis son divorce. Mais étrangement, les femmes qui lui tombaient dans les bras jusqu'à l'été dernier se méfiaient maintenant d'un homme qui avait sabordé sa famille sans état d'âme. D'autres devenaient plus exigeantes. Sachant qu'il était disponible, elles envisageaient le mariage, une nouvelle vie de couple, et il lui était impossible de seulement le concevoir. Depuis que la communication autour du projet de véhicule à hydrogène lui avait été confiée, il avait des horaires impossibles. Les tâches secondaires qu'il laissait volontiers à son ex-épouse, les courses, le ménage, la lessive, prenaient maintenant du retard. Parfois, il se rendait compte en rentrant chez lui que le réfrigérateur était vide et les magasins fermés, ou qu'il n'avait aucune chemise propre pour le lendemain. Son salaire pourtant confortable de directeur, mais amputé de la pension qu'il devait maintenant verser à son ex-femme, ne lui permettait pas d'engager une femme de ménage. Demestre refusait malgré tout de sacrifier son train de vie et sa manière d'être. Il continuait de porter, en toute saison, des verres fumés dans les cheveux et des vêtements de marque, un stylo Montblanc dans la poche intérieure de sa veste Hugo Boss et une montre IWC qui coûtait aussi cher qu'une voiture. Un accoutrement bien peu pratique quand il devait pousser son vulgaire caddie contenant du papier toilette et des plats cuisinés surgelés. Il s'arrangeait d'ailleurs pour faire ses courses dans un centre commercial éloigné où il ne risquait pas de tomber sur quelqu'un qu'il connaissait. Il entra dans la salle de réunion et salua d'une poignée de main chaleureuse les journalistes et invités à la conférence de presse. S'il avait croisé les mêmes personnes dans la rue, il aurait sans doute détourné le regard, mais aujourd'hui, il avait besoin d'eux et de leur complaisance. Le pôle de compétitivité hydrogène prenait officiellement naissance ce jour, et il fallait attirer l'attention du grand public et des industriels sur l'événement. De grands visuels avaient été conçus et dressés sur des kakémonos au design moderne et coloré. Des éléments de langage avaient été distribués à toutes les personnes susceptibles d'être interrogées par les journalistes. Tout le monde devait parler d'une seule voix et répandre la communication officielle comme s'il s'agissait de quelque chose de naturel et d'évident. Une maquette de voiture futuriste à l'échelle 1/25e, arborant le logo d'Automobile Composant, trônait sur un piédestal en verre entouré d'un décor de verdure qui évoquait la propreté et le bien-être. Nicolas Verdier, le militant écologiste, avait réussi à se procurer une invitation et il examinait la maquette en soupirant, en attendant l'arrivée des personnalités qui, bien entendu, se faisaient attendre. Quand elles entrèrent enfin, tout le monde prit place sur les chaises et attendit la première prise de parole. Ce fut le discours de François Pernier, président de région, qui exprima sa fierté de participer au lancement du projet et insista particulièrement sur les retombées économiques et donc l'emploi d'un tel pôle de compétitivité pour la région. Il laissa place à Jean-Clément Charles, qui tint un discours beaucoup plus technique et expliqua les enjeux industriels du projet. Enfin, le doyen de l'université détailla à son tour la participation des laboratoires et des étudiants dans le pôle hydrogène, mais déjà plus personne n'écoutait ce qu'il disait. Bien qu'un dossier de presse complet eût été remis à l'ensemble des participants, une séance de questions-réponses figurait à l'ordre du jour de la conférence. Les journalistes, principalement, eurent l'occasion de faire préciser aux différents intervenants un certain nombre de chiffres. Pour écrire leurs articles, ils devaient en effet mettre en avant des chiffres de toutes sortes, nombre d'emplois créés, durée du projet, performance de la future voiture. On devinait, à travers ces questions, la rubrique encadrée « Le pôle hydrogène en chiffres » qui ne manquerait pas de figurer dans toute la presse régionale du lendemain. Nicolas Verdier rongeait son frein en entendant les discours convenus et les questions consensuelles des journalistes, puis on lui donna enfin la parole alors qu'il agitait la main au-dessus de sa tête depuis le début de la séance de questions-réponses. Il commença à parler, mais fut aussitôt interrompu par le directeur de la communication, qui faisait semblant de prendre note de toutes les questions. « Pardon, je n'ai pas bien compris votre nom. »« Nicolas Verdier. »« Pour quel journal ?»« Non, je suis un écologiste de l'association... »« Ah, très bien. Je vois que notre véhicule propre intéresse déjà les militants écologistes, » interrompit à nouveau le DIRCOM, en se moquant intérieurement de l'allure de son interlocuteur, qui, malgré le froid, portait un simple t-shirt où il était écrit « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. » Pas du tout, au contraire, s'agaça le militant. La voiture individuelle n'a jamais été une solution écologique, et la voiture à hydrogène encore moins. « Quelle est votre question, monsieur ?» reprit le directeur, comme si Verdier faisait perdre du temps à tout le monde. « Je voulais savoir si, depuis le 6 mai 1937, date à laquelle le Zeppelin Hindenburg s'est enflammé, la science a réussi à faire en sorte que l'hydrogène ne soit plus ce dangereux explosif que personne de sensé n'oserait mettre dans un réservoir de voiture. » Les journalistes, amusés, se tournèrent vers Jean-Clément Charles et son directeur de la communication qui était plus particulièrement visé par les questions techniques. Ceux-ci se concertèrent un instant pour savoir qui prendrait la parole. Ce fut le PDG lui-même qui répondit. Vous n'êtes pas sans savoir que l'essence est elle-même extrêmement inflammable et que cela ne nous empêche pas d'avoir des millions de véhicules qui circulent avec ce carburant sans exploser à chaque coin de rue. Par ailleurs, je tiens à rappeler que tout véhicule qui est mis sur le marché subit un certain nombre de tests et doit être homologué par les ingénieurs de l'industrie et des mines en suivant un cahier des charges strict et exigeant. Autrement dit, s'il y a le plus petit risque d'explosion de notre véhicule, il ne sera jamais mis sur le marché et vous n'avez donc rien à craindre. Mais je suis confiant, des prototypes ont déjà été conçus et ont fait leurs preuves et nous avons un savoir-faire important en matière de réservoir à carburant puisque je rappelle que nous fournissons déjà les constructeurs français. » Nicolas Verdier s'apprêta à répondre, mais le directeur de la communication, tout en faisant un geste apaisant de la main en sa direction, donna la parole à un autre journaliste. La conférence de presse touchait maintenant à sa fin, et des bruits de bouteilles qui s'entrechoquaient se faisaient entendre à la porte. Le vin d'honneur qui suivait la réunion était théoriquement l'occasion d'approfondir les questions qui avaient été éludées pendant la séance. Mais le plus souvent, cela tournait au pugilat pour l'accès au petit four. Élus et journalistes qui enchaînaient ce type de rendez-vous dans la journée, sans parfois prendre le temps de se restaurer, étaient les premiers à prendre d'assaut les plats de toast. Il s'agissait de manger vite, tout en essayant, pour les journalistes, d'obtenir une photo originale avec un responsable en gros plan devant une maquette. De leur côté, les élus devaient se restaurer rapidement tout en essayant d'obtenir un article sur leur rôle particulier et si possible prépondérant dans le projet. Voyant qu'ils ne pouvaient accéder ni au petit four ni aux personnalités pour leur poser d'autres questions dérangeantes, Nicolas Verdier enfourcha son vélo et pédala comme un forcené jusqu'à son domicile où il avala sans appétit une salade bio de son jardin. Le lendemain, il pesta en voyant dans la presse que son intervention n'avait pas été relevée par les professionnels de l'information.